Affaire en cours, c'est le nom de cette séquence. Marie, on en rappelle, le principe, c'est que le troisième jour après tout. Hein.
Oui, le principe, c'est de faire une séquence culture et société et donc de mêler un objet culturel avec un fait d'actualité. Et pour nous aider à le penser, appeler un intellectuel, un penseur, sociologue, anthropologue, philosophe, qui va donc nous éclairer sur ce sujet-là.
Et ce soir, direction Villerville.
Oui, alors je ne sais pas, Arnaud, si vous êtes déjà allé à Villerville. Alors c'est une petite ville côtière à quelques minutes de Deauville. Et il s'y tient depuis 7 ans, un festival de théâtre un peu particulier, puisque les représentations ne se déroulent pas dans un lieu dédié, mais sur la plage, dans un hangar, dans un ancien casino désaffecté, dans des restaurants, ou même directement chez les gens.
Alors un festival de théâtre sans les murs de l'institution, donc plutôt une bonne idée cette année. Cette année du 27 au 31 août, notamment on y verra le très grand Patrick Pinault qui crée avec Sylvie Orcier Black March. C'est un texte inédit de Pierre Barabès. Il y aura des performances, il y aura des concerts, il y aura des lectures de textes contemporains.
Oui, et alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui volontiers l'art in situ. Et pour comprendre un peu mieux ce que recoupe cette notion qui est quand même un peu plus complexe que ce qu'elle n'y paraît à premier abord, nous en parlons ce soir avec Aurélie Mouton-Rezouk, maître de conférence à Paris 3, muséologue et théâtrologue.
Alors, on utilise le terme in situ pour qualifier des propositions artistiques, des productions qui prennent place ou qui investissent des lieux qui ne sont pas spécifiquement conçus pour accueillir un événement artistique ou du spectacle vivant. Mais ça, c'est une définition qui est très générale et en fait, elle recouvre des conceptions, des pratiques qui sont assez différentes selon les lieux et les pays. On peut par exemple, comme ça va être le cas dans les pays anglo-saxons, mettre l'accent d'une façon assez étroite sur la relation singulière qui s'établit entre un lieu, un site, et le contexte spatial, architectural, humain qui anime ce lieu, ce site, et le geste artistique. Et là, on parlera plutôt à ce moment-là de performance site-spécifique, c'est-à-dire de création conçue spécifiquement pour un lieu donné. Et ça peut être un lieu unique, un paysage spécifique, une usine désaffectée, telle église, tel musée, etc. Ou bien un lieu générique comme une église en général, un musée, un champ, et ça permet de faire tourner le spectacle. Et dans cette conception, évidemment, tout va tenir à la relation très étroite entre le site, le paysage, ses habitants, ses usagers, son histoire, son architecture, et le geste artistique auquel il va participer pleinement. Mais en France, c'est un peu différent, c'est-à-dire que le terme in situ comprend assez largement, au-delà de l'ensemble de ces gestes artistiques que j'ai déjà évoqués, tout ce qui va relever du hors les murs, c'est-à-dire d'une programmation en dehors des lieux théâtraux proprement dit. Alors évidemment, dans un certain nombre de cas, ce choix va renouveler plutôt de la recherche d'un nouvel espace pour jouer davantage que de la création d'un lien très très fort, très étroit entre le lieu et la proposition artistique. Et donc on va compter dans le in situ aussi bien des spectacles programmés dans des salles polyvalentes en milieu rural par exemple, ou dans une salle de classe en milieu scolaire, que du théâtre d'intervention urbaine, des créations conçues spécifiquement pour un monument historique, un appartement ou un paysage urbain. Et puis, on a aussi un certain nombre d'artistes, comme de festivals de rue, qui vont se réclamer de réseaux in situ. Et donc, dans un certain nombre de cas, ce sont des logiques plutôt de décentralisation et de démocratisation, des effets de proximité avec les publics, qu'ils soient venus tout spécialement ou pas hein, pour le spectacle, qui vont l'emporter. Alors derrière ça, il y a tout un ensemble de modèles un peu hétérogènes, de lignées très prestigieuses, mais aussi très distinctes qu'on peut évoquer. Par exemple, la filiation avec le Théâtre du Peuple de Maurice Potcher à Bussan, c'est la toute fin du 19e siècle, hein, qui est au départ une estrade à flanc de colline, et puis une grange ouverte sur la forêt. Donc ça atteste du lien avec le théâtre populaire. Mais c'est aussi pour l'atmosphère du site, et ça puissance de révélation dramatique. Je pense par exemple à la mise en scène d'un Macbeth en 1909 et d'un Péléas et Mélisande en 1910 par Georgette Leblanc, qui était la compagne de Maurice Maeterlinck et qui avait produit ces deux spectacles à l'abbaye de Saint-Vendry en Normandie où ils s'étaient installés, c'était chez eux. Voilà, donc les exemples sont nombreux. Beaucoup plus récemment, la référence qu'on va proposer dans les milieux du spectacle vivant, c'est par exemple la mise en scène de Rêve d'automne de Patrice Chéreau au Louvre dans le salon Denon.
Tu sais, l'autre jour, je parlais avec une petite fille, et elle devait avoir deux ans seulement. Elle m'a montré sa poupée. J'ai dit que c'était une jolie poupée. J'ai demandé comment elle s'appelait. Elle m'a dit que la poupée s'appelait Amalie. J'ai dit que c'était un joli nom. Et tu sais ce qu'elle a dit alors? Elle a dit que les jolis noms sont toujours tristes. Ils disent tant de choses, les enfants. Ils peuvent comme ça, sans effort, dire des choses si justes.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Valeria Bruni-Tedeschi qui résonnait dans les galeries du Louvre lors de l'édition du Festival d'automne en 2011, dans donc cette fameuse mise en scène de Patrice Chéreau.
Mais comment ne pas reconnaître la voix de Valeria Bruni-Tedeschi? C'est vrai que c'est, moi j'ai un souvenir très ému de ces représentations. Le Louvre vu autrement, ça vous parle ça, J.R.?
Bah bien sûr.
On en reparlera parce qu'on verra aussi les images de votre intervention sur la pyramide, on peut dire ça comme ça, dans la galerie Perrotin, l'espace de l'impasse Saint-Claude. Alors, c'est vrai que le in situ, quand on parle d'in situ, ça dépasse quand même largement les frontières d'un genre, et ça, J.R. pourra nous en parler aussi, ça croise les disciplines. C'est une appellation assez récente, c'est pas le principe non, et Rolly Mouton-Rezouk s'interroge aussi sur le bien fondé de cet engouement que suscitent ces formes qui respectent évidemment plus facilement les règles sanitaires de distanciation.
Dans ce contexte particulièrement difficile pour la création théâtrale, pensez-vous que justement que le in situ soit une solution envisageable à la création post-Covid?
Alors, on voit bien en quoi le in situ pourrait apparaître comme une solution, mais en fait une solution à une pluralité de problématiques qui sont pas tout à fait propres à cet après-Covid, mais que d'une certaine manière la pandémie a mise en lumière. Je dirais que ça repose davantage sur un imaginaire de ce que devrait ou pourrait être la création in situ que sur la réalité des productions. On peut identifier par exemple un idéal de relocalisation des productions, plus encore que de délocalisation, un rêve d'arrivage au terroir qui est bien dans l'air du temps. Il y a aussi la focalisation sur l'idée du dispositif en plein air. Le plein air, c'est très hygiénique, mais en fait, c'est pas du tout systématique dans le in situ, hein, qui investit toutes sortes d'espaces clos également. Je crois qu'il y a aussi en jeu la redistribution de la responsabilité de la distanciation sociale, en fait, vers les spectateurs, puisque le spectateur va reprendre bon gré mal gré une part de cette responsabilité quand le dispositif scène-salle n'est pas contraint, comme ça va être le cas dans un équipement spécifique pour le théâtre. D'ailleurs, c'est souvent un contresens parce que les formes in situ peuvent impliquer des mouvements de déambulation, d'attroupement, et on a vu par exemple ce que ça a donné au Puy du Fou. Je crois que derrière, il y a l'idée que la diversification des circuits de financement pour le secteur du spectacle vivant, la recherche de nouveaux partenaires nombreux sur un territoire, pourrait aussi pallier les difficultés que rencontre aujourd'hui le secteur. Et puis, je crois qu'en dernier lieu, il y a ce mélange d'adaptabilité, de débrouillardise, en fait, de réactivité qu'on peut associer au in situ et qui fait écho d'une façon qui mérite quand même discussion, à cette injonction, cette proposition appuyée qui a été faite récemment aux artistes de se réinventer, si ce n'est pas d'y mettre un petit peu du leur. Alors évidemment, on peut rêver à ce que les longues séances, sessions de résidence, de création en version confinement ou post-Covid qui ont été offertes aux artistes dans des espaces autres puissent se révéler esthétiquement, politiquement, socialement féconds et soient vraiment un ferment pour la création in situ. On peut aussi rêver à ce que cette pluralité de financeurs nouveaux soit pleinement au service de la création artistique. Bon, ça correspond pas nécessairement aux réalités de terrain.
Vous vous réinventez tout le temps, vous, JR. Vous n'avez pas attendu que le président de la République vous le demande.
disons que c'est pour ça que j'aime aller dans des endroits où je connais rien du tout. On parlait des ballets tout à l'heure et de la chorégraphie, mais dans plein d'autres secteurs. Je comprends peut-être dans ma discipline, c'est plus simple parce que c'est le mode opératoire même. Mais dans d'autres disciplines, je comprends que c'est délicat, c'est compliqué, puisque même un acteur ou un comédien qui veut organiser quelque chose en plein air, il y a le même problème de réunir les gens. Donc c'est, j'entends que ça soit très compliqué et en même temps que il faut trouver des solutions parce qu'on peut pas vivre sans culture et il faut qu'elle survive.
Merci à vous, Marie Sorbier. Merci à Aurélie Mouton-Rezouk. Marie, on vous retrouve demain à 19h20 pour une nouvelle affaire en cours.